Bienvenue sur Forge FM, le podcast de la Forge Ludique. On est en juillet 2025. Hop, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, autour de la table, on est super nombreux. Et normalement, j'ai activé les micros de tout le monde. Donc autour de la table, on a Riri, qui est aux commandes de la vidéo, comme d'habitude.
Bonsoir à tous.
On a Sly.
Bonsoir.
Kirou.
Salut.
Greg.
Hello.
Dim.
Salut.
Et nos skills, moi-même. Alors, c'est bizarre, il y a des bruits bizarres. Ok, excusez-moi, parce que j'entendais des bruits de micro étranges. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de table d'équipe du moment et... Cette fois-ci, je vais commencer parce que j'ai eu une idée en tête, hein, tout simplement. J'ai réfléchi
à cette fois-ci.
Parce que c'est moi qui décide.
C'est ça. Donc, grosso modo, en fait, il était super fort.
J'ai super fort. J'ai défoncé tout le monde.
Je vais baisser un petit peu.
Vas-y, baisse-toi.
Du coup, en fait, c'est pas vraiment un kiff du moment. C'est juste parce que je suis fier. Il y a mon fils, Luc, qui a eu son bac et qui a mention très bien.
Allez,
bravo.
Il était pas
déjà, lui.
Hein,
bravo, Luc. Il était pas à la fac déjà, Luc.
Non, bah ah ouais, mais il est reparti au bac. C'était son bac.
Je sais pas, la dernière fois que je l'ai vu, j'ai l'impression qu'il avait 25 ans.
Ouais, mais en fait, non, il vient d'avoir 18.
Okay.
Du coup, il venait d'avoir 18.
C'est un daron.
Il était beau comme un
très bien. Donc voilà, donc il y a une super note en SVT, il y a eu 20, et ça, c'est cool.
Bon, du bref, coup, c'est facile, après, tu peux avoir 5 en maths.
Ouais, c'est un peu ça.
Le kiff de la fierté, quoi.
C'est ça, le kiff de la fierté. Et le deuxième truc, c'est que avec Chris, donc notre cher Chris, on s'est offert une Bamboo Lab,
Ah, parce que Bamboo Lab,
rien à voir avec les gâteaux des années 80.
C'est horrible. Ouais. Faut pas que je parle en fait.
A1, putain, pourquoi t'es aussi fort?
C'est
trop
pas.
Bizarre. A1, et du coup, avec un AMS, et je m'amuse beaucoup avec ce truc-là.
Qu'est-ce que c'est qu'un AMS?
Qu'est-ce que c'est qu'un AMS, monsieur?
En
fait, un AMS, c'est
une affection ou maladie sexuelle.
C'est ça, c'est exactement ça. Non, c'est un système fait par la firme Bamboo Lab. Qui,
pourquoi ils s'appellent comme ça? C'est trop bizarre comme.
Parce qu'en fait, ils viennent de Chine, je pense. Ils aiment beaucoup le bambou et c'est les laboratoires du bambou.
D'accord. Non, mais les mecs, ils ne sont jamais venus ailleurs qu'en Chine, en fait.
Pas en France, en tout cas. Ouais. Et du coup, c'est un système qui va permettre de mettre jusqu'à 4 bobines en parallèle et qui va permettre de faire des impressions à plusieurs couleurs.
D'accord.
Alors, j'avoue, ouais. dans mon cas, c'est pas spécialement l'impression à plusieurs couleurs qui m'intéresse parce que ça consomme à mort. Mais c'est plutôt de le charger avec la même couleur et de faire en sorte que si tu flingues une bobine, ben, il continue quand même l'impression.
Ah ouais.
Et ça, c'est assez cool.
Ça, c'est fort.
Ça, c'est cool. Ça m'est déjà beaucoup arrivé de finir des bobines et puis que l'impression...
Gros investissement, ça, c'est quoi le tarot?
450 euros, monsieur.
Quand même, belle bête.
En solde,
quand
même.
450 euros. Ouais. Parce que le AMS, il coûte 250, grosso modo.
Ok, ouais, donc une option qui emporte le prix de la machine, quoi.
En fait,
t'as 200 balles, quoi.
La machine, elle fait. je pense qu'elle doit faire un peu moins de 300 euros.
Tu peux t'imprimer une voiture en 3D.
Et avec l'AMS, il la vend 450.
D'accord, ok.
Donc ça vaut le coup de la prendre en combo plutôt qu'en séparé. Tu gagnes 100 balles.
Bienvenue sur le podcast de Villebrequin. Ah non, merde.
Ben, l'impression 3D fait partie.
C'est un peu de la mécanique.
Ouais,
ok, Dak, on va passer à qui donc où, vas-y, Dim, c'est à toi l'honneur.
Mon kiff du moment.
Il voit la vie en bleu, il nous a dit.
En gris. C'est les confédérés, moi, en ce moment.
Ah oui.
Le kiff, ouais. Je repeins du petit modèle. C'est rigolo parce que ça va super vite. Tiens, Greg, attrape-moi la boîte qui est juste derrière toi. On s'est lancé dans un défi avec The Blark. De jouer la guerre de sécession. Donc je joue les confédérés et lui joue les unionistes, les nordistes quoi. J'étais très fan du jeu Amiga Nord et Sud, pour les plus anciens,
ouais.
Si vous vous souvenez. C'est un peu ça qui m'a vachement inspiré. Et alors. Ouais. Et du coup, c'est ça, c'était ton micro de casque en fait ?
Non, ouais, le micro est coupé en soi.
Bref, alors le kiff, ouais, c'est que tu peins du petit format. On joue avec la règle With Hot Lead and Cold Steel.
Oui, dont tu déjà parlé la dernière fois.
Voilà, j'ai parlé la dernière fois.
J'invite nos auditeurs à repartir sur le podcast du mois dernier.
J'ai peut-être dit que c'était déjà ça mon kiff. Après.
Ouais, tu triches un peu, mais c'est pas grave.
L'autre kiff, je rejoue à Space Marine 2 en multi. Sur ma PlayStation, C'est assez drôle. Voilà, c'est pas de la figurine, mais bon, ouais, bah, il faisait fort chaud en ce moment, hein, et depuis le dernier podcast, pas beaucoup avancé sur la peinture, mais du coup, quand t'as ce genre de petit truc, tu peux avancer. Parce que tu fais tout à la contraste, tu fais une grisaille globalement sur la figurine, et après, une fois que t'as bloqué tes couleurs à la contraste, tu peux y aller. Alors, le truc de vraiment chiant avec les confédérés, c'est qu'ils ont des uniformes un peu chamarrés. Ils peuvent avoir des uniformes marron, gris,
gris clair, gris foncé, marron,
noir, ouais, des uniformes civils.
Ils n'avaient pas forcément beaucoup d'uniformes, non. En fait.
Bah, ils volaient les uniformes sur les nordistes, donc tu peux avoir des pantalons de nordistes avec un haut de sudiste. Enfin, c'est très...
Petit truc rigolo, hein, je t'ai fait la remarque tout à l'heure. Je ne sais pas si Riri, tu peux nous remettre l'image, là.
C'est des
zouaves. En fait, ouais, y a dans la boîte, c'est la cavalerie et des brigades zouaves. Alors, en fait, du coup, c'est des zouaves. Alors, j'étais étonné, je me suis dit, mais les zouaves, c'est pas plutôt en France qu'on les avait ?
Et si, on a. En fait, il faut savoir que pendant la guerre de Sécession, petite parenthèse histoire, beaucoup de généraux ont été un peu dans le monde entier, voir un peu ce qui se passait, etc., un peu se faire du benchmark. Militaire, et les troupes de zouaves, c'était un petit peu l'élite, enfin l'élite, c'était des troupes un peu qui permettaient de faire du choc, etc. Et donc, peut-être qu'il y a des spécialistes de l'histoire qui me contrediront sur le podcast, mais bon.
Oui, parce que c'est connu qu'on est un podcast historique,
voilà.
Tu peux y aller. Ouais.
Mais bon, en gros, ils ont copié effectivement les uniformes français. Alors tout à l'heure, The Blark disait que c'était en croyant qu'avec l'uniforme, ils allaient être plus combatifs. Ouais. Mais les zouaves, en gros, c'est des troupes de militaires professionnels, plutôt aguerris, en général.
Du coup, tous d'origine américaine.
Là, par contre, alors, sur les zouaves, là, pour le coup, sur la boîte, en plus, c'est ceux-là, c'est de la Louisiane. Donc, ils ont des pantalons. Alors, normalement, c'est pas ce pantalon-là. Le pantalon, il est blanc avec des petits traits bleu-blanc-rouge. C'est bleu-blanc-rouge, le pantalon.
Ah ouais, ok, d'accord. C'est vraiment, en France, quoi. Ouais. Enfin, Louisiane.
Ah, les uniformes de la guerre de Sécession, on croit que c'est seulement gris et bleu, mais pas du tout. C'est très, très variable. Il y a plein de couleurs.
C'est rigolo au niveau peinture aussi.
Ouais, après,
tu
réduis. Non. Je vais tenter.
Je vais voir le liseré.
Je vous avoue que je vais tenter. J'ai fait des barbes blanches sur certains de mes bonhommes.
Très, très bien.
Oui, des barbes.
Oui, des barbes, mais pas des
étendards. Étendards régimentaires.
Non, l'étendard, tu découpes, c'est prêt, tu as du papier, tu découpes, plus, tu te fais repâcher. Cool. Non, franchement, c'est cool. Parce que, alors, après, la qualité du gravage est ce qu'elle est.
C'est vrai, c'est pas fou.
C'est la sensation de masse qui est importante.
C'est la sensation de masse. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est des plaquettes de 10 bonhommes. En fait, quand tu peins. Donc là, j'ai peint 100 bonhommes en tout. J'ai 10 plaquettes de 10. Ils sont par 10.
Je me permets.
C'est des lignes, c'est des lignes de bonhommes.
On trouve pas facilement d'Open the Box FR sur ce type
du plastique.
Il y a chez les Anglais, oui, mais.
Il y a eu un gros truc. Bah, il y a Grégory qui avait fait pas mal de trucs sur sa chaîne pour parler de quand le jeu est sorti, quand le format Epic était sorti.
Ouais.
Mais nous, on a décidé de s'affranchir de la règle Warlord pour la raison que j'ai expliqué dans le dernier podcast. Et du coup, on part sur Osprey. On a utilisé une adaptation faite par des Américains, c'est ce que je disais dans le dernier podcast, on a regardé pas mal de leurs vidéos, et franchement, ça marche plutôt pas mal. Et là, bah, on a notre partie test la semaine prochaine, du coup.
Alors, top. Par rapport à ce que tu as dit, je trouve que la gravure, elle n'est pas dégueu.
Oui, non, mais c'est pas mal.
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder. Mais...
C'est pas mal.
Je les ai regardés de près, moi, puis j'étais surtout étonné, je regarde les photos postées par The Blark et par Dim. Je suis étonné de l'impression que ça me donne. Je me dis, franchement, c'est pas...
Ah, ça donne une...
J'avoue que j'ai trouvé ça cool aussi.
Ah, bah oui.
Quand tu mets les plaquettes, tu mets les plaquettes...
On en parlera tout à l'heure de mes problèmes, mais...
Et franchement, c'est la même qualité que le Bolt Action en 28 mm.
Bah oui, c'est ça. Ouais. De toute façon, c'est la même chose,
mais... En fait, c'est ça, ouais.
En taille réduite.
Ouais,
sauf que c'est plus sympa.
Sauf que là, ça va, du coup.
Bah oui, c'est ça. Donc j'attends à ce que...
j'ai pas fait gaffe, c'était la même boîte.
J'attends à ce que Warlord sort un format... Donc Warlord, si vous m'écoutez, Eric Weisberg, qui est Warlord France, si tu m'écoutes, je pense pas, mais bon...
Sait-on jamais.
Est-ce qu'un jour, on aura un format épique pour la Deuxième Guerre mondiale chez Warlord? Parce que moi, j'attends beaucoup ce format-là, parce que c'est le format sympa pour jouer à la Deuxième Guerre. Et
Ils n'étaient pas rangés aussi.
Ouais, mais après, tu peux essayer de faire des escouades un peu disséminées. Parce que si tu regardes sur la grappe, t'as quand même des bonhommes tout seuls.
Sur du socle rond à la épique, du coup, entre guillemets.
Oui, par exemple. Mais pour jouer avec la règle Blitzkrieg.
Oui, du coup.
Parce que la règle Blitzkrieg, elle est vraiment sympa.
Bon, mais merci pour ce long kiff.
Pardon, j'ai
pas de soucis. On a pas besoin de passer.
Non, tu passeras quand même.
Pareil.
Mais juste plus rapidement. Vas-y, Greg. T'as 15 secondes.
15 secondes, ok. Mes kiffs, ma gaming room, la préparation
du
Paris Wing, Wargame pour AOS, parce qu'on y va en troupe, donc cette préparation-là. Je fais de l'impression 3D pour l'instant, que je n'ai pas encore trop diffusé en interne. En gros, l'impression 3D, ça va être pour faire des machines de guerre, parce que je vais faire des ogres spécialisés dans le siège de cité afin de tout venir casser. Quoi.
Tout voilà. Manger.
Tout manger aussi, oui. Donc j'essaie de monter un petit trip comme ça, avec un petit renfort d'impression 3D. Ensuite, c'est la poursuite de ma campagne Necromunda. Là, on est passé sur la phase 2, qu'on a bien attaqué avec 6 joueurs. Et on va attaquer des rotations jusqu'à la fin de l'année. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien. On est dans l'appropriation de territoire. Donc ça, c'est un petit kiff aussi, en tant qu'arbitrateur. Et puis le gros kiff, c'est le Hammer Time 7, où j'ai quasiment finalisé.
Alors ça, on va en parler un petit peu plus tard. Je pense qu'on finira le podcast par ça, en fait.
Ouais, d'accord. Ok, on finira pas, parce qu'à mon avis, si vous me lancez
il
vers
sera
la fin,
du matin, heures, et ouais. Le podcast fera 8h52 minutes.
Ouais, à tout à l'heure.
Sly, du coup
écoute, depuis 15 jours, j'ai pas fait grand-chose. Je continue de peindre des Stormcast pour Paris aussi. Et j'ai monté le fameux super décor de faction des Stormcast.
Ah, je l'ai vu tout à l'heure.
Qui est pas ouf.
L'espèce de kiosque.
Ouais. Tanguy dit que ça ressemble à des chiottes de chantier.
Bois du don.
Toilette publique, j'allais dire.
Mais c'est pas gentil, ça, pour les Stormcast.
Moi, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de faire
un truc. Il y a moyen de faire un truc tuné un peu.
Avec
vendeur
de flammes cuche à côté.
En gros, j'ai pas eu beaucoup de temps non plus. Donc.
Ça marche.
Parce que c'est les Stormcast. Les Stormcast, c'est bien connu.
Et moi, c'est bien parce que au dernier podcast, j'étais pas là. Et
c'est
du
vrai.
Du coup, je recycle mon kiff du moment.
Bien joué.
Bien joué, hein. Je l'avais gardé, je l'avais préparé. Non, je plaisante. Je prépare jamais rien. Du coup, mon kiff du moment, c'est la campagne Necromunda. Parce que ça, je rebondis là-dessus. C'est vrai que c'est incroyable. Et c'est assez plaisant, ce que je disais à Greg la semaine dernière. C'est assez plaisant parce que moi, j'avais fait la première campagne il y a 4 ans maintenant, au moins. En fait, là, on réamorce, donc on n'a plus que les véhicules, on a aussi du piéton, etc. Et en fait, ce qui est bien...
Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Ouais, tu peux fermer ma gueule, si tu
veux. C'est fini, tu as passé ton temps,
c'est fini. En fait, il y a Riri qui compte, c'est-à-dire pour moi, le micro 1, et en fait, je l'ai muté pour vérifier un truc. Désolé.
Et qu'est-ce que je dis ? Donc, on a intégré les piétons, en fait, j'ai rejoué, et en fait, je me souvenais. Ça, ouais. C'est trop bien. Quand tu rejoues un jeu auquel tu n'as pas joué depuis 4 ans, presque, c'est-à-dire, il y a des trucs que tu oublies, hein, mais on va dire que le système global, je ne l'ai pas perdu. Et je suis content parce que ça, c'était pas gagné avec ma mémoire de poisson rouge. Et sinon, mon deuxième kiff du moment, du coup, il y a 3 semaines, je fais un gros tournoi Blood Bowl,
ouais.
Le Lutèce Bowl. Donc, c'était pas à Paris, c'était à Tours. Mais ça s'appelle le Lutèce Bowl, organisé par l'association du Lutèce, du coup. Qui est, elle, basée à Paris, mais comme c'est un gros tournoi maintenant, ils vont à Tours, dans un gîte. Et c'était assez incroyable, le décor, le joueur. Il y avait 220 joueurs de Blood Bowl, plus une vingtaine d'orgas pour orchestrer tout ça. Et c'était un bon kiff. On est parti à une douzaine de joueurs avec les Chats Noirs, donc c'est l'association de Blood Bowl qui est sur la Madeleine maintenant.
C'est quoi ? C'est, j'allais dire Johnny, mais non, c'est pas les Chats Noirs, c'était pas Johnny.
Johnny ?
C'était Chaussettes Noires.
C'était
Eddie Mitchell. On va y arriver.
Et je suis parti, aussi avec T-Bax, du coup. T-Bax, Pitted Runner. Il y a plusieurs pseudos, Thibaut, pour les intimes, qui fait aussi partie de la Forge, du coup, et des Chats Noirs.
Il est déjà venu au podcast, d'ailleurs.
Oui.
Tout à fait.
Nous parler de Eldorado.
Exactement.
Ça marche. Merci, Kirou.
Voilà, c'était bien.
Que tu veux passer du coup la parole à Riri.
Moi pour le moment je suis plus sur les. Il y a un retour ou pas? Je m'entends pas.
Ouais.
Si. Là je suis encore sur les plateaux. Pas plateau. Deck building. Chart of Infinity, si j'ai bonne mémoire, j'oublie tout le temps le nom du jeu.
D'accord.
Mais du deck building chez Ilio.
Okay,
il y a trois games et puis j'ai fait le Ascension, Chart of Infinity et le troisième Commander, je sais plus quoi, et je suis là-dessus en ce moment.
Ok, d'accord, deck building. Alors.
Ouais.
Alors, quand on n'a pas fait le tour de table avant, je ne sais pas qui a une chronique de prêtre. Du coup, Kirou, je pense que tu en as une.
Donc c'est moi qui commence.
Bah écoute,
allez, une nouvelle enquête de l'inspecteur Kirou. Franchement, il ouais. n'y a plus les génériques maintenant, c'est quand même...
Ah bah si, je peux te le trouver.
On peut chanter si tu veux.
C'est trop tard, c'est pas grave, pour la prochaine fois. Je le savais qu'en le titillant un peu, il le retrouverait.
Je l'avais prêt en fait, mais juste que je savais pas que c'était l'expectative.
Si, on change pas une équipe qui gagne.
Eric, si tu nous entends.
Alors du coup, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien en ce début d'été qui, chez nous, est bien trop torride pour que Sly ne se promène pas en slip pendant le podcast. Ah, on me dit dans le casque qu'il voulait venir nu, mais on l'en a empêché parce qu'on est dans un centre social, quand même, la bienséance, tout ça. Enfin bref, nous voilà enfermés dans cette fournaise à suer à grosses gouttes pour vous, pour vos petites oreilles et vos petits cœurs qui nous lovent un peu plus à chaque nouvelle écoute. Cœur sur toi, Apox. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour les autres quand même ? Comment ça pour les autres ? Ouais. Non, en fait, on le sait tous ici, si on fait tout ça, c'est pour nous. C'est notre part d'égoïsme qui s'exprime, qui se déploie le vendredi soir. On vient partager un moment de convivialité entre copains, mais surtout, on se fait plaisir à nous. Tiens, est-ce qu'on tiendrait pas un petit sujet de réflexion pour l'inspecteur qui roule ? Allez, on va essayer de creuser un peu cette affaire, entre deux verres de limonade et une merguez un peu trop cuite, en entrant tout de suite dans le vif du sujet. Alors oui, le jeu sous toutes ses formes est un moment de partage. Notre hobby est riche de rencontres, de discussions, de conseils, d'échanges. Non, nos skills, on parle pas de la Villa des Anges, là.
Ah, d'accord.
C'est ce qui nous fait y venir et y rester. C'est sa force, son argument de vente, son leitmotiv. Et bien que certains soient d'irréductibles défenseurs du jeu solo, ou qu'ils y soient contraints, il est tout de même beaucoup plus appréciable de pouvoir jouer une partie face à un ou des adversaires. Et comme ils disent à l'asile d'Arkham, plus on est de fous, plus on rit, à ce qu'il paraît. Et il en est de même lors de nos événements ludiques. Non, pas lubriques, nos skills préférés. Il est toujours plus sympathique de tenir un stand de démo sur une convention quand on est plusieurs, ou même de se balader sur un salon lorsque l'on est accompagné de nos compagnons de jeu préférés. Guillaume nous dit « Franchement, quel pied de construire un projet sur l'année avec les copains pour monter la plus belle table de démo pour le Hammer Time. On se nourrit les uns les autres avec des idées farfelues, du challenge, bref, on s'éclate toute l'année avec ce fil rouge, avec comme objectif le Hammer Prize. » Claire nous raconte « J'ai monté un club de figurines et TCG dans mon collège pour les mômes, c'est génial comme ils s'épanouissent sur le temps du midi. Ils peignent, jouent et même discutent de sujets divers et variés. C'est extra de les voir comme ça dans une période actuelle qui n'est pas forcément des plus joyeuses. Ils ont sourire et c'est le plus important pour moi. » Boris, lui, pratique le jeu compétitif en équipe. Pour moi, c'est 10 fois plus cool de faire un tournoi en équipe. C'est là que le jeu prend toute sa dimension. On ne gagne plus pour soi, mais pour l'équipe. Le résultat individuel importe beaucoup moins que celui de l'équipe. On est soudés dans la victoire comme dans la défaite. C'est ça qui est bon. Et puis franchement, faire le trajet ensemble, loger ensemble, jouer ensemble, c'est les meilleurs week-ends de tournoi. Néanmoins, il semble que la plupart des joueurs ne jouent que par égoïsme, car ils y trouvent une satisfaction personnelle. En effet, on constate que la plupart des hobbyistes sont dépendants aux hormones du plaisir. Endorphine, sérotonine, dopamine, ocytocine et même adrénaline et chagatine sont constantes dans notre hobby. Et les joueurs y sont accros. Rares sont ceux dans notre milieu qui réussissent à passer une semaine sans toucher au pinceau ou à faire une partie de wargame. L'égoïsme prédomine alors avec l'unique recherche du bien-être et de l'accomplissement personnel. Un certain T nous raconte. Je vous avoue qu'à partir du mercredi, je ne commence à ne penser qu'à une seule chose, ma partie du vendredi soir. Je commence à trembler et montre tous les signes du manque ludique. J'ai besoin de ma dose hebdomadaire, sinon je deviens insupportable. Au boulot, mes collègues me regardent bizarrement si je rate une semaine de jeu. Pascal, lui, se confie. Si je passe un mois sans m'asseoir à une table d'initiation sur une convention avec mon t-shirt orange, je me sens pas bien. J'ai le bourdon, je suis accro à ce que ça génère en moi, ce mélange de bonheur, de fierté, de découverte. Grrr, ça me rend tout chose, il m'en faut plus. Louis, lui, nous décrit. Jeune papa de 2 enfants, j'étais débordé par la vraie vie et tellement en manque de hobby que j'étais voir mon patron pour lui demander un jour de congé hobby malade. Évidemment, il n'a pas accepté. Pourtant, l'idée est excellente, non ? Finalement, je me suis retrouvé comme un con à peindre dans ma bagnole sur le temps de ma pause déj. Et oui. Il semble bien que la plupart des hobbyistes soient complètement addicts à ce que leur procure le jeu et tout ce qui l'entoure. Les cas de sevrage semblent être rares et sont difficilement détectables. Enfin, il arrive que cette dépendance amène une dérive qui parfois peut devenir maladive. En effet, on remarque de temps à autre qu'un joueur, par peur de manquer de sa dose de plaisir, embrigade des partenaires, connus ou pas, dans toujours plus de nouveaux jeux. Ainsi, il pense trouver pour l'éternité des joueurs pour assouvir ses désirs ludiques les plus profonds. On parle alors du syndrome de l'influenceuse, qui était déjà décrit ainsi par un grand philosophe de l'Antiquité. Si autrui te suit, alors jamais seul tu ne seras. un certain T, encore une fois un autre, témoigne de cette pathologie. Je suis libertine, je vais jouer KT. On constate qu'il est dur de réussir à trancher cette question. Finalement, sommes-nous dans le hobby pour nous ou pour les autres? Plaisir en solo ou à plusieurs? Sommes-nous ici par pur égoïsme ou par simple altruisme? Certainement un savant mélange des deux à la fois qu'il est difficile de cloisonner et qui rend d'autant plus plaisant notre hobby dans toute sa diversité. Et je terminerai enfin par une question pour notre cher président qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Alors Greg, est-ce que tu organises le Hammer Time pour les autres, pour les forgeurs, les visiteurs, la communauté ludique, ou juste pour ton plaisir personnel, pour la gloire que tu en retires et parce que c'était l'un de tes objectifs de vie?
Ah, c'est une excellente question.
Très bonne question.
C'est une très bonne question. Très partagée. Je crois qu'il y a des. Je vais te répondre sérieusement pour le coup, parce que ça me prend un peu à contre-pied. Je pense qu'il y a une forme. Il y a une satisfaction hédoniste à organiser le Hammer Time. Il y a un vrai kiff. Tout ce qui se passe avant, c'est de la douleur. C'est chiant à mourir, faut être clair. C'est chiant à crever. C'est énormément de préparation, c'est beaucoup de données administratives, c'est souvent des arbitrages complexes. Et au plus on avance dans les éditions, au plus c'est compliqué parce que bah, tu peux pas faire plaisir à tout le monde. L'année dernière, je l'avais dit, ma frustration c'était de refuser des gens. Cette année, bah, c'est encore plus vrai. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a cette forme de douleur. Et au moment où le Hammer Time se lance, où je vois le premier bénévole arriver, je me dis ok, c'est parti, go. Les dés sont en train de rouler. Et là c'est parti. Là, c'est que du plaisir. Voilà. Et l'année dernière, c'était Tom, qui est arrivé le premier, qui m'a filé un coup de main pour déplier une table. C'est l'image que j'ai du 6. Et je dis ok, go, c'est parti. Là, on prend le large, là, c'est en avant. Et voilà, il y a eu d'autres éditions où j'ai des moments marquants qui n'appartiennent qu'à moi. Mon premier visiteur sur le tout premier Hammer Time, j'ai le visage.
Excellent.
Donc il y a des choses comme ça qui marquent et qui sont faites que pour soi, ou qui sont, enfin tu ne les anticipes pas en fait, tu vois, elles t'habitent après. Et je pense que c'est la satisfaction est là. Ça serait vraiment faire trop de glorieux de dire oui, je le fais pour cet objectif-là. Je l'ai fait dans un geste général qui était la création de la forge, parce que je l'ai dit, je crois, sur la vidéo de Iggy, je crois. La forge ludique est née du projet de faire le Hammer Time, en fait, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on était dans une association où, intrinsèquement, on n'était pas en capacité de porter un événement dédié figurine, où une ligne budgétaire était identifiée, etc., pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises, hein, mais en tout cas, elles étaient là, présentes. Et pour des raisons d'organisation, avec 4 autres fous furieux, on s'est dit ok, bah banco, on redémarre ex nihilo, après 30 ans de vie associative, on reforme un projet et on va la faire, cette convention. Donc je ne l'ai pas fait solo, en fait, tant que ça. J'ai tout de suite embarqué au moins 4 potes, donc c'était déjà une aventure de groupe. Et aujourd'hui, c'est un projet qui me dépasse, en fait. Il faut être clair, ça serait couillon de dire oui, le Hammer Time, c'est moi. Et puis c'est complètement fou, quoi. Voilà. Par contre, la partie administrative, financière, machin, oui, ok, je continue à tout organiser, à appeler les gens.
Mais ça,
c'est pas pour le plaisir, c'est le côté dur, en fait. Je l'avais dit à Lyon, un mec qui était venu m'interpeller en mode ouais, comment t'organises le Hammer, etc. Je lui ai dit écoute, fais une troupe. Solo, t'es mort. Voilà. C'est le seul conseil intelligent que je lui ai donné, je crois.
Et cette année, je pense que c'est l'année où tu le délègues le plus. Tu
as réussi à lâcher les morceaux. Il y a un état de fatigue aussi du bonhomme, hein, qui est lié à d'autres événements. Qui sont d'ordre professionnel principalement. Mécaniquement, je délègue. Et je dis, si tu galères, tu te retournes vers moi. Si, tant que tu avances, t'es dans la bonne direction. Voilà, c'est ce que t'as choisi, donc j'ai rien à dire là-dessus. Et il y a des espaces dans lesquels je mets quasiment plus mon nez, en fait. On peut parler du concours de peinture. Beaucoup l'espace peinture, en fait. Je me suis beaucoup mis en retrait parce qu'il fallait vraiment une idée neuve pour redynamiser ça. Donc il y a des. je suis plus sur des chargés de projet à l'intérieur du Hammer Time qui s'occupent de piloter une ou deux entités bien spécifiques. Et ça me libère bien le cerveau, quoi, parce que j'avais beaucoup moins de temps à consacrer cette année. Voilà. Donc, mais c'est, honnêtement, je vous dis, vraiment le truc, c'est de se dire, ok, go, j'ai les clés, j'arrive sur le site, j'ouvre les portes, je vois le premier mec arriver, en général, en plus, il y a deux types de bénévoles. Il y a celui qui est là depuis longtemps, il vient à l'arrache, il sort du taf, enfin, je parle des gens de la forge, et il vient faire le setup, l'implant, etc. Puis le mec, c'est un briscard, donc il sait que. Et puis t'as le mec qui est là depuis un an.
Ou moins,
qui vient donner un coup de main, il prend pas la foudre, il vient et le mec il est en orange. Donc au montage, il s'est mis en orange. Et tu vois, tous les ans j'en ai un. Il vient au montage, on n'est pas en présentation, au stade du montage, parce que la logistique, le mec il dit ok, j'appartiens à l'entité. Il se floque, il vient, je lui dis ouais, demain tu mets quoi comme fringue? Ah j'ai merde.
Voilà. Ce soir je suis quand même.
Ouais mais j'en ai toujours un, ça me fait rigoler. Mais bon après voilà, il y a le podcast, il y a peut-être qu'il y en aura peut-être pas. Donc voilà.
Ça marche. Mais c'est vrai que on m'a posé la question cette semaine si la figurine le modélise, le faisait pour moi ou pour les autres.
Ah tu vois.
Si tu me reposes la question là pour le coup pas Hammer Time, la figurine je l'ai vraiment fait pour moi. Ouais. Vraiment.
À la base, on l'a fait pour nous en fait.
En fait, c'est les deux.
Ouais.
C'est
quand on a ouvert le truc, c'était un peu pour nous quand même, non?
Le Hammer Time, non, mais la figurine, oui, pour moi. Ouais, vraiment pour moi, parce que la quintessence pour moi, c'était vraiment le jeu de rôle. Et j'ai démarré par les livres dont vous êtes le héros, donc c'était des aventures en solo. Donc j'ai fait des aventures tout seul. Là, on a des parasites externes. C'est donc j'ai démarré par ça. Et donc, c'est les livres dont vous êtes le héros, t'es tout seul, quoi.
Ouais, en effet.
Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'est installé. Et puis après, après le jeu de rôle, ben, la figurine est arrivée chez moi par le biais du jeu de rôle, puis après le wargame, en fait.
Ouais, bon, on m'a posé une question, j'ai pas trop trouvé de réponse. C'est, imagine que...
En fait, quelqu'un t'a passé sur le grill, en fait.
Imagine je sais pas que... c'est quoi cette semaine, bizarre. Mais
imagine que. Ouais, je vais voir.
Il s'est passé sur le gris tout seul.
Imagine que t'es personne à qui montrer des figurines.
Personne.
Personne. Genre.
Ouais, ok.
Est-ce que genre, t'habites dans l'Arzac avec des chèvres
Et que t'as pas internet, que t'as rien du tout.
Tu peux montrer tes chèvres.
Ben, je vais te répondre, je pense que oui. Pour la bonne et simple raison que j'ai une bonne partie de mes figurines peintes que vous ne connaissez pas. Vous êtes mes amis les plus proches du monde du hobby. Donc je pense que par extension, ouais, je continuerai certainement. Ouais.
Okay.
Après, en plus, ça, enfin, moi, je parle aussi pour moi. Moi, j'ai commencé par la peinture. Au début, j'ai peint pendant, je sais pas, au moins, pendant un an et demi, deux ans. Je connaissais personne en fait qui était dans le hobby. Juste des tapis quick, il y avait des trucs. J'ai fait, oh, ça a l'air cool. Je fais un petit peu de maquette avant. Et j'ai peint ça tout seul. Donc tu commences, je pense, tout le monde commence un peu pour soi. Et après, ça rejoint les chroniques que j'avais déjà fait sur les réseaux sociaux, etc. C'est en fait à la base, on a tous commencé ici, il n'y avait aucun réseau social. Donc oui, quelqu'un qui commence maintenant, peut-être qu'il n'aura pas la même réponse. Mais on est dans un écosystème ici à la forge où, à part quelques récents forgeurs qui ont commencé tardivement, en fait, on n'a pas commencé pour montrer aux autres.
Qui descend pourquoi faire
Désolé pour les auditeurs,
on était souvent, tout seul, on avait un pote peut-être avec qui on jouait, mais voilà, tu le fais pour toi à la base, je pense.
Okay.
Après, maintenant, ça a peut-être évolué. Enfin, je pense qu'on a tous évolué là-dessus. Bah, c'est si on vient jouer à la forge, c'est plus fort. Enfin, c'est aussi pour
nous. Tu vas devoir rallumer mon micro.
Bah, il est pas éteint. Hein.
Ah ouais, c'est vrai.
Non, c'est juste
quand j'étais gamin, j'ai eu mes premières figurines de Space Crusade. J'en parle souvent. Quand je les ai peintes, en fait, tu peins au début pour toi, pour essayer de reproduire ce que tu vois. Et puis, en fait, après, t'as envie de les montrer aux autres pour dire genre, t'as réussi, tu vois. T'as réussi dans le game. Du painting, quoi, mais où t'as réussi à progresser, à franchir un palier, un autre palier, tu vois. Mais
le propriétaire de la voiture 62,
le propriétaire de la Dacia immatriculée bleue.
Voilà, mesdames.
Donc, petit intermède.
Aléa du direct,
c'est le direct en différé.
Donc, on a deux personnes qui bloquent. Qui bloquent
ça sera coupé au montage.
Non, ce sera pas coupé au montage, j'ai pas de montage.
Oh.
Du coup, merci Guillaume. Merci voiturier.
Hein. Merci.
Et il vous dira pas où elle est garée.
Et comme demain c'est le Tour de France, peut-être vous la retrouverez pas. Elle sera peut-être pas
justement, je pense que c'est le staff du Tour de France en plus. Les mecs sont staffés. Aussi,
ouais. Attends, mais ouais, elle est garée dans la rue.
Bon, ouais, bref.
Non, mais on peut te l'enlever. C'est là okay. qu'ils veulent sortir leur.
De toute façon, il n'y avait pas de panne, ils ont pas.
On peut continuer du coup.
Ouais, c'était allons-y, génial. Allons-y. Merci, pédalons, ma chronique, elle était trop bien, je sais.
C'est vrai. Merci, Kirou.
Merci, Kirou.
Alors du coup, je pense qu'en plus, elle faisait une bonne transition. Je vais faire ma première chronique.
Hein. Wow.
Un générique.
Un générique.
Donc, ah ouais, non, et là.
On en a parlé la dernière fois. Hein, du coup, bon, j'avoue, le voile se lève aujourd'hui. Je vais vous emmener dans un monde caché. Un monde fait d'ombre.
J'ai peur. J'allais faire des anges. J'allais faire.
Je suis ultra attentif là.
J'allais faire une blague sur ton voile sans lèvres. Heureusement que t'es pas en.
Recule-toi un petit peu du micro.
Tu grésilles un petit peu. Ah, donc je vous emmène un petit monde caché, un monde fait d'ombre et de couleurs chatoyantes, un monde tabou.
Le Hubertin de la figurine.
Eh oui, j'ose sortir au grand jour. J'assume désormais mon côté libertin de la figurine. Contrairement aux joueurs fidèles, ceux qui poncent les règles préférées, ceux qui chopent toutes les références de leur armée avant de commencer une autre, ceux qui portent des t-shirts avec des slogans et des logos de leur jeu, ceux qui passent des jours dans un vieil entrepôt ou un gymnase dans une odeur de sueur pour un tournoi rassemblant une centaine de joueurs, nous, les libertins de la figurine, nous adonnons, en plus, à des pratiques plus fluides, plus versatiles, plus libres. À côté de notre jeu régulier, vous savez, le jeu que vous adorez, auquel vous avez joué des dizaines de fois, presque à le connaître par cœur, enfin, la version de l'époque. Les nouvelles versions demandent toujours une attention constamment renouvelée. Donc, à côté de ce jeu, nous, les libertins de la figurine, ne nous privons pas de batifoler ici et là parmi toutes les tentations qui s'offrent à nous. Notez, chers amis, que ça ne réduit pas du tout l'amour qu'on ressent pour notre jeu premier. Ça réduit juste le temps qu'on peut lui consacrer. Ainsi, dans cette rubrique, je ne vous parlerai pas d'Infinity, avec qui j'ai passé des magnifiques moments, mais bien toutes ces petites aventures croustillantes dont, je le sais bien, bande de coquins, vous raffolez. Aujourd'hui, nous parlerons d'une relation récente qui a fait son chemin petit à petit au fil des rencontres. Selon certains, ils se reconnaîtront. Je prends d'ailleurs un peu trop mon temps. Vous savez, je suis un romantique. Depuis mon plus jeune âge, c'est un univers qui m'a attiré. Aventure, combat, trésors cachés, voyage merveilleux. Pardon. Je précise un peu. Des canons, des combats sur l'eau, des patchs sur un œil, des crochets, des mousquets, des sabres d'abordage. Bref, vous avez compris, le monde des pirates. Alors, il y a beaucoup de références sur cet univers. Jamais été trop attiré par les oldies historiques, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. Par contre, on a d'autres sources plus alléchantes qui ont agité leur forme alléchante ici et là. On trouve donc des références, normalement je vais avoir des photos, des références de chez Black Scorpion. Hop là, bien sûr, j'ai pas bien préparé mon truc. Des références de chez Black Scorpion. Un poil plus grande, mais vraiment très jolie. Il y a tous les stéréotypes du monde de la piraterie. Hop. Donc des soldats pas pirates, des femmes pirates, des squelettes pirates, et aussi des pirates tout court. Merci Guillaume pour le voiturage. Mais pas de règles, allais-je dire. En fait, cependant, en préparant ce texte, je vois qu'il y en a finalement une, nommée Cutlass, disponible en anglais et gratuitement sur le site. J'en parlerai pas plus, je ne l'ai pas lu, pour l'instant. Black Scorpion, c'est une belle promesse de plaisir, mais pour le moment, je n'ai pas encore succombé à ses charmes.
C'est sympa.
Ouais, elles sont super sympas, les figurines. Incontournable sur les salons français, alors une autre tentation, des figurines hautes en couleur et en millimètres, de nos amis TGCM dépeignent un monde de piraterie bourré d'animaux anthropomorphiques. Bien que rassemblant les attributs des pirates, sabres, pistolets, tricornes, jambes de bois, l'échelle imposante de ce jeu ne m'a pas séduit. Sous des atours bourrins, je suis très sensible et, j'avoue, la taille me fait peur. Et j'avais pas envie de faire de décors spécifiques. Notamment, j'ai également eu la frousse de peindre que des grosses pièces. La taille, ça compte vraiment. Vous voyez, être libertin de la figurine, ce n'est pas être une personne trop facile. Je réussis à dire non à certaines avances. Bon, le problème dans notre communauté, c'est qu'il y a toujours un autre libertin de la figurine pour te faire des propositions indécentes. Vous savez, les petits trucs un peu exotiques en tête à tête ou en groupe. Et c'est là que la volonté défaille. Je garde l'anonymat de mes compères et commères de vice, mais la prochaine tentation était un PCR. Un plan cul régulier de Miss C, qui, depuis plusieurs années, se vautrait dans la luxure. Une figurine à la fois avec cette gamme. avec Miss K, lors d'une convention, nous avons testé, et bien entendu, tous craqué. C'est les pirates de Freebooter Fate, et ça règle l'escarmouche duel assez rafraîchissante. Les figurines sont vraiment jolies. Alors, j'ai pas proposé de photos, j'ai oublié. On ne joue qu'avec quelques personnages.
Plein d'anecdotes croustillantes sur des crises.
ce qui change en fait des énormes orgies, des jeux de foule tels que AOS par exemple. Vous savez, ça fatigue au bout d'un moment le nombre. Dans les particularités un petit peu amusantes, un petit peu de bluff sur le choix des cibles des attaques. Le joueur doit choisir quelle partie du corps de l'adversaire frapper, et ce dernier doit choisir où parer.